Beurre FM, 18h-19h, Time Food Special Cannes, avec Bilal Nedman, sur Beurre FM, numéro 1 sur le foot africain.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM pour une nouvelle émission de Time Food Special Coupe d'Afrique des Nations 2019. Nous sommes le jeudi 4 juillet, on reste donc bien à l'écoute de votre radio préférée, que vous soyez en vacances, dans les transports ou même au boulot. Avec vous, chers auditrices et auditeurs, tout au long de cette émission, vous pouvez réagir avec toute l'équipe en composant le 01 53 48 3000 et aussi sur la Twittosphère pour réagir avec vos consultants toujours connectés sur leur téléphone et leur tablette et essayer tout de même de remporter, écoutez bien, le magnifique maillot de l'Algérie offert par Ivry France, notre partenaire Beurre FM. Ivry, gazeuse et la citronnade et fruits. Voilà, ça c'est dit. Au menu de cette émission, on reviendra sur les Pays-Bas qui éliminent la Suède et passent donc en finale pour affronter les États-Unis. On rejoindra le Brésil avec le Pérou de Guillaume qui dégomme le Chili 3-0 et file en finale de cette Copa América pour y affronter le Brésil de Dani Alves. Notre large page concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2019 dans cette émission, comme d'habitude, sans oublier le Havre qui se met à rêver d'un certain Samir Nasri. C'est parti, go go Time Foot.
Time Foot, spécial cash. Time Sport.
Et ce soir, avec moi en plateau pour m'accompagner, il nous a ramené le soleil. C'est Mamadou Lamine Mané. Comment ça va, Mamadou ?
Très bien, Bilal. Je l'ai pris en otage. Il m'a fait défaut la semaine dernière. Mais là, je lui ai dit, écoute, t'as intérêt à venir avec moi. Parce que ce soir, Time Foot, Time Sport explosif. Et donc, je suis venu avec le soleil, plein de chaleur dans le studio. Et content d'être de revenir cette semaine.
El Presidente, Kamel Aïd Keira est avec nous. Comment ça va, Kamel ?
Ça va très bien, Bilal. Toujours, c'est toujours agréable pour moi d'être avec vous. Puis un grand bonjour à nos auditrices et nos auditeurs.
Ouais.
De Beurre FM, hein, c'est principal.
On a un petit clin d'œil aujourd'hui, non ?
Non.
Peut-être pour le petit neveu, non ?
Non, ça va.
Le magnifique maillot.
Fadila qui m'écoute là.
Ah ben ça va, Fadila. Eh ben un grand bonjour à elle, Kamel. On est beaucoup à écouter El Presidente Kamel que nous aimons tant. Bruno Aoyo est avec nous ce soir, notre Béninois. Alors comment ça va, Bruno ?
Ça va et toi, Bilal ?
Ça va très très bien. Ouais, ça va.
Heureux d'être ici avec ce beau maillot algérien qui fera un beau demi-finaliste de la CAN éliminé par l'Égypte.
Et c'est promis, on fera.
Ça commence.
Ah là là,
ça commence. Il a ouvert les hostilités. Ça va être chaud ce soir.
Je tenais à dire à nos auditeurs, ouais. C'est le même qui a pronostiqué la victoire du Chili contre le Pérou.
Eh oui.
Mais quel tacle basse. Je vous ai dit, je regarde la CAN, la meilleure compétition continentale. On regarde pas la Copa América.
Elle va vite terminer. On gardera un œil de près sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 du côté de l'Égypte. Un petit clin d'œil à Nabil Fati, notre réalisateur vidéo. Sans oublier Hugo, notre réalisateur de ces fameuses émissions Time Sport et Time Foot. Et sans lui, on ne pourrait faire ces émissions. Un grand merci à toi, Hugo. Le petit clin d'œil aussi à notre community manager Yasmine. Sans oublier notre graphiste aussi Sokaina et Juba Wishen du côté des plages de Barcelone. Hein. Lui, il commence à contempler le mercato barcelonais. Aïe aïe aïe. Lui, on va l'attraper. En tout cas, Yamedi Adjad, il est avec nous. Le Globetrotter, lui, on a réussi à le choper.
Salut, comment ça va, Bilal ?
Tu vas bien ?
Ça va, les gars ? Tout le monde va bien ici ?
Ouais.
Formidable. Super. Moi, ça va très, très bien. Il fait beau. On est content d'être ici. Ça fait un moment.
Eh oui, on a la diaspora malienne qui est avec nous ce soir dans ce studio de Beurre FM. On a la personne de Bams Cissé. Comment ça va, Bams ? C'est ouais. Plaisir, vraiment plaisir.
Super, super. Merci pour l'invitation. On tape la Côte d'Ivoire en 8e. On gifle l'Algérie.
Oh là là.
Et c'est fait.
Ah ben pourquoi pas. On verra bien en tout cas.
On m'avait pas dit Bilal que c'était une émission humoristique aujourd'hui.
Non,
c'était une émission sportive, mais là c'est une émission humoristique.
C'est pas bien.
C'est sérieux.
On a que des comiques sur le.
On reste sérieux. On reste sérieux.
Il y a beaucoup de marabouts au Mali, je parle pas.
Ouais. Ah mais t'inquiète pas. Nous on a DJ Kim pour cela. Il est là, c'est DJ Kim toujours à l'écoute de nos émissions et que vous pouvez retrouver chaque jour sur l'antenne de Beurre FM. Lui en tout cas, il y croit bien fort, DJ Kim. Et nous, comme lui, pourquoi pas un succès après celui de 90 des Fennec ou encore des autres nations africaines.
Il faut rester. Un peu, hein. Enfin, je sais pas,
oui, il faut rester. Ça date. Eh oui.
Justement.
Ouais. Mais ça, tu le sors toujours. Hein. C'est comme 26 mai 93
ans,
aussi. Hein.
Ça fait 29 ans.
Ça date aussi. Hein. Ça aussi. Voilà. Ah, ça date. En tout cas, allez, on s'attarde un peu sur les Pays-Bas, sur cette demi-finale.
Time Foot. Spécial Cannes. Le ras-le-bol.
Les Pays-Bas, Bruno, éliminent donc la Suède et passent en finale. Les Pays-Bas ont créé la surprise en s'imposant hier soir face à la sélection suédoise, ce mercredi à Lyon, en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Néerlandaises disputeront donc le fameux titre face aux États-Unis dimanche pour leur première finale tout de même. Le niveau affiché des Bataves est-il comparable à celui des Américaines lors de leur qualification contre l'Angleterre? Bruno Ayot, on l'écoute.
Franchement, pas du tout. Hein. Franchement, c'était une demi-finale un peu terne quand même qu'on a vu hier. Après, moi je suis pas étonné en fait par le parcours des Pays-Bas parce que moi j'avais suivi l'Euro 2017 et j'y étais et j'avais déjà vu une équipe très technique, très déterminée avec une identité de jeu bien précise en fait. Et c'est tant mieux et c'est super qu'une joueuse comme Jackie Gronon, la joueuse de Francfort qui a signé à Manchester United, marque ce but parce que c'est vraiment une joueuse de talent, brillante avec le ballon, très intelligente avec une intelligence de jeu remarquable. On a dit qu'elle était fan de Cruyff, mais pas que. C'est une joueuse très intelligente et qui était déjà très importante dans le titre remporté par les Pays-Bas lors de l'Euro il y a 2 ans. Donc il faut voir dans quelle mesure cette équipe des Pays-Bas sera performante. Mais par exemple, Viviane Miedema, voilà, c'est une attaquante qui a encore progressé par rapport à son Euro où elle était déjà très bien. Et ça va être une force importante dans les airs parce que la défense centrale américaine d'Al Kemper, Sauerbrunn, a quelques problèmes de vivacité et de présence. Et Miedema, c'est une joueuse voilà, qui a de la vivacité, qui a de la puissance et qui sera importante en tant que point d'ancrage pour cette équipe des Pays-Bas. Les Oranjes Leeuwinnen, comme on les appelle.
Et les frères connaisseurs de ce football féminin, Kamel, concernant cette demi-finale hier soir, le Pays-Bas, quand même pour la première fois en finale.
Oui, mais ça a été une demi-finale. Ça a été une demi-finale indigeste parce que quand on a regardé la demi-finale États-Unis Angleterre, c'était l'un des plus beaux matchs de la compétition. Là, ça a été une demi-finale indigeste où les deux équipes se sont un peu regardées en chien de faïence. Hein, ça a pas joué. Mais bon, je pense que c'était à la Suède de faire le jeu. Ils étaient là, ils devaient pas être là. Ils ont fait un bon parcours. Ils sont arrivés en demi-finale. Après une finale, ça se gagne. Hein, faut vouloir la gagner. Faut attaquer. Faut mettre en place des. Faut se donner les moyens de la gagner. Et je pense que la Suède ne s'est pas donné les moyens. Les Pays-Bas, bon, c'est vrai, c'est une belle frappe, mais bon, sincèrement, c'était pas non plus un match. Et si les Pays-Bas jouent comme ils ont joué en demi-finale contre les États-Unis, ils sont tranquilles, quoi. Ça va pas, ils ont pas à avoir peur. Même si c'est une belle équipe, mais je pense que le niveau des États-Unis est vraiment au-dessus. Hein, y a pas de problème, ils vont gagner.
Vraiment au-dessus, mais techniquement, je pense que l'entraîneur des Pays-Bas peut nous proposer quelque chose tactiquement de très intéressant.
On a dit la même chose contre la France, on a dit la même chose contre l'Angleterre, les États-Unis, ça reste les États-Unis.
Non, mais parce que Sarina Wiegman, l'entraîneur des Pays-Bas, c'est un autre niveau que Corinne Diacre, moi je suis désolé. Et puis voilà, bon, l'Angleterre, ok, oui, c'est une très bonne équipe, mais les Pays-Bas ont battu l'Angleterre en demi-finale du dernier Euro. Donc les Pays-Bas, c'est toujours un niveau au-dessus. Après, évidemment, sur la puissance physique, sur les forces en présence, il n'y a pas photo, mais ça reste une finale à 17h, dans la chaleur. Les Américaines jouent beaucoup sur le physique. Et on a vu qu'elles avaient quelques problèmes quand même, notamment à tenir la longueur sur le physique. On a vu Morgan, voilà, beaucoup boiter. J'ai aussi en mémoire aussi Mewis aussi qui avait eu quelques difficultés lors du quart face à la France. Donc c'est pas gagné. Bon, évidemment que les États-Unis sont favoris, elles sont favorites, elles sont tenantes du titre, elles ont déjà gagné plusieurs fois le titre mondial. Mais je pense qu'il peut quand même y avoir match.
Faudra que les Pays-Bas fassent un autre match que leur demi-finale. Et moi, je pense que la force des États-Unis, c'est de s'adapter. Quand on dit physiquement, ils étaient. Non, la tactique des États-Unis, c'est qu'ils se mettent en place. Ils font en sorte de laisser le jeu, comme ils ont fait contre la France, comme ils ont fait contre l'Angleterre. Ils laissent le jeu à un moment donné. Ils passent en défense à 5. Et ils se mettent bien en place, ils attaquent sur des comptes. Et je pense qu'ils sont très intelligents, ils jouent en fonction de l'équipe qu'ils ont en face d'eux. Et ouais. C'est ça où elles sont redoutables, les États-Unis.
On le rappelle, près de 5 millions de téléspectateurs pour Pays-Bas-Suède, un total très honorable, même avec l'élimination de l'équipe de France, même s'il ressort un cran en dessous de la première demi-finale, il faut le rappeler, États-Unis et Angleterre, qui a rassemblé près de 6,3 millions de téléspectateurs ce mardi soir. Mamadou, concernant Pays-Bas-Suède.
Donc,
sur cette demi-finale.
Demi-finale, tu me parles plutôt de l'audience.
Non, en général, de cette sélection, après les réactions de Bruno et aussi de Kamel.
C'est
pour la première fois en finale, il faut le rappeler.
Première fois en finale, mais méritée, parce qu'elles ont été quand même chercher le match au bout, peut-être pas au bout du temps additionnel, mais au bout du match. Par contre, pour ce qui concerne la finale, j'ai du mal à imaginer les États-Unis passer à travers. Les États-Unis, ouais. En fait, elles jouent vraiment. C'est une équipe qui joue en s'adaptant à son adversaire, Kamel l'a fait remarquer. Et tu sens qu'effectivement, elles jouent Et à un moment donné, ils sont même capables de s'arrêter, de baisser de rythme pour voir ce que va faire l'adversaire en face. Et s'il faut remettre un coup, elles remettent un coup derrière. Donc elles ont une telle expérience, un tel impact physique, même si elles ont du mal peut-être à terminer. Mais quand elles mettent de l'impact physique, c'est très très compliqué pour l'équipe en face de rivaliser. Et c'est ce qui s'est passé contre la France d'ailleurs, puisqu'on pensait que les Françaises allaient pouvoir tactiquement soit les bouger, voire techniquement. Et ça n'a pas été le cas, elles ont été carrément balayées.
Alors Médé,
moi je pense que sur une finale, il faut rappeler, c'est une finale. Et à ce moment-là, tout peut se passer. Le Pays-Bas, ils peuvent très bien faire un match qui sort de nulle part et battre les États-Unis. On est sur une finale et on sait très bien que dans le monde du football, hein, que ce soit féminin, masculin, il n'y a rien de prévisible sur une finale. Alors, je pense qu'ils ont autant de chance que... vrai que c'est un ogre, hein, les États-Unis, mais bon... À mon avis, ça
va très très vite.
Ça peut se faire.
Ouais, les Pays-Bas peuvent pas.
Ne vendons pas
taper.
La peau de l'ours avant de l'avoir.
Pas de problème.
Ça va être sûr. Ça va être très très dur. Hein.
Grande école
ça
du
va
football.
Être très dur.
Ouais. Nous, on est pour le petit poussé, mais c'est comme ça.
Il y en a beaucoup qui sont pour le Pays-Bas peut-être cette sélection.
Peut-être que les Français sont par extension pour les Pays-Bas, étant donné que.
La proximité, tu veux dire.
Les États-Unis, ils jouent contre l'équipe qui les a sortis, effectivement, en 8e en quart.
Ah bah, faux. Babs. Ouais.
Alors moi je dirais, vu ce que tu viens d'expliquer Mamadou, par rapport aux États-Unis, justement,
les Américaines pour toi.
Voilà, pour les Américaines, laisser ce laps de temps à l'adversaire entre guillemets d'exister peut leur coûter le match sur une finale, parce qu'une finale, on est capable de se transcender. Sur un match, une finale, on la joue pas tous les jours. Hein. On se dit allez, on a 90 minutes à tenir et face à une équipe comme ça qui est ultra favorite de la compétition avant même qu'elle commence.
Il y a une pression particulière.
Voilà, il y a une pression particulière.
Ils n'ont pas la pression, les Américaines.
Non, justement.
C'est pas la France. Hein.
Oui,
c'est pas la France.
Mais, justement, la pression, le fait de ne pas avoir de pression en finale peut être un handicap. Moi, je pense aborder une finale avec une certaine pression.
Elles n'en sont pas à leur première, quand même. Hein. C'est pas la première finale qu'elles font. Elles en ont
combien, mais l'excès de confiance nous a démontré à plusieurs reprises que. On peut se faire surprendre.
Oui, n'oubliez pas, vous avez oublié une chose, messieurs, c'est que la demi-finale, elles ont joué sans leur maître à jouer, sans leur buteur, sans Rapinoe. Sans leur capitaine, non, ils ont joué sans elle. Maintenant, elle va revenir. Après,
oui, mais
en termes de pression.
C'était compliqué, hein. C'était pas un match simple. Hein.
Oui, déjà, mais tous les matchs, aucun.
Non, mais il y a déjà le but refusé pour un hors-jeu sur une main, et puis il y a le pénalty raté par Steph Hewton, la capitaine de l'Angleterre.
C'est pas la faute des Américaines, hein,
s'ils ont
raté le but. Hein.
Non, mais ce que je t'explique,
faut les mettre,
c'est pas une équipe qui bat tous ses adversaires 3-0. C'est ça qu'on dit. Donc, évidemment que les États-Unis sont favorites, elles sont mieux préparées, elles ont un staff de 35 personnes, elles ont des moyens colossaux, toute la nation les soutient, il y a énormément d'Américains qui sont déplacés. Mais dire que les USA, c'est sûr qu'au bout de à la mi-temps c'est plié, moi je ne pense pas.
On n'a pas dit ça.
Je suis pas certain.
On a dit ça.
Je pense que ça va être un match. Je ne sais pas s'il va être vraiment il va avoir débat, mais en tout cas, je ne pense pas que les États-Unis vont s'imposer 3 ou 4-0.
Bilal, je peux faire une petite parenthèse.
Bien sûr. Avant de parler de la Copa América.
Tu disais par rapport moi je suis content et ne le prenez pas mal. Je suis content que la France ait perdu contre les États-Unis. Non pas que je suis contre la France. Hein, parce que moi je suis français avant tout, mais moi je suis content parce que je ne voulais pas que la Fédération française de football se gausse du fait que l'équipe féminine soit championne du monde et qu'en fin de compte parce
que attends
non laisse pas terminer et en fin de compte elles ne font aucun travail au préalable pour développer le football féminin à travers les sections amateurs. Ce que font les États-Unis, elles font un travail exceptionnel au niveau du football amateur, au niveau des jeunes filles. Donc là, ça veut dire que tous les mangeurs de petits fours et les mangeurs de macarons de la Fédé, si la France avait gagné la Coupe du Monde, ils auraient dit bah c'est bon, on est tranquille, on fait du bon travail. Non, ils font pas du bon travail, ils font pas de travail du tout. Donc c'est important pour remettre l'église au centre du village et dire il y a du travail pour toutes ces petites jeunes filles qui vont venir dans les clubs au mois de septembre et qui vont souvent trouver la porte fermée. Mais là c'était important qu'elles ne gagnent pas par rapport à ça.
On termine avec toi Bruno. Simple réaction.
Bah moi je suis pas d'accord parce que c'est pas les mêmes pays. Enfin voilà, et si tout était parfait dans le football français, franchement on le saurait quoi. Il y aurait plus qu'une Ligue des Champions chez les hommes, les finales de Ligue des Champions féminines seraient respectées. Donc pour moi c'est logique. Voilà, justement que ce soit logique, d'accord, mais se réjouir un peu que les Bleus soient éliminés si tôt. Si elles avaient été éliminées en demi, ok, mais on va pas mentir. Voilà, le tableau a été mal fait. Moi j'ai jamais vu ça. De nombreux experts l'ont dit, moi j'ai jamais vu le pays hôte qui tire la tête de série numéro 1 potentiellement en quart de finale. Donc voilà, c'est quand même dommage. Bon après, de toute façon les Américaines sont plus fortes. Moi je savais que moi, pour moi, c'était, il y avait quasiment aucune chance que la France passe contre les États-Unis.
Merci pour ces belles réactions concernant cette demi-finale qui opposait les Pays-Bas à la Suède. On va passer justement au continent sud-américain avant d'en arriver à l'Afrique.
Time Foot spécial Cannes.
Le Pérou dégomme justement ce Chili, cette sélection chilienne, 3-0, et file directement en finale de la Copa América édition 2019 pour y affronter le grand Brésil chez lui. En quête d'un troisième titre consécutif, le Chili ne disputera pas sa troisième finale de cette de la Copa América. Justement, ils se sont fait surprendre. Ce match ne constitue-t-il pas une surprise? Une sacrée surprise même.
Surprise, oui, mais je pense que
elle c'est... Elle y est quand même. On n'attendait pas... C'est
une grosse surprise, mais j'ai l'impression que c'est une équipe aussi en fin de cycle.
Ah.
C'est ça. En tout cas, moi, j'ai vu le match. J'ai veillé un peu contrairement à toi. Et effectivement, j'ai vu ce match-là.
Et était tard, 2h du matin.
C'est une équipe vieillissante qui s'est dit, bon, on est là, c'est pas mal déjà en demi-finale. Donc voilà, quoi. Fin de cycle, passons à autre chose.
Alors moi, Bilal, moi, si tu permets, par rapport au...
Mais je te le permets, tu es là pour ça, justement. Pérou, c'est grave si je te le permets pas. je te dis de venir pour ça, justement. Allez, rapport, on te
par
permet.
Par rapport au Pérou, moi, je suis pas étonné. Pourquoi? Parce que, je les ai vus déjà contre l'Uruguay, et ils ont fait un très match. Et surtout, et moi, j'en reviens toujours à ça, parce que je vais chercher vraiment le petit plus. Je vais pas m'appeler Monsieur Plus, je vais chercher le petit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail de la Fédération péruvienne qui est fait depuis 10 ans. Hein, ils ont recruté un recruteur italien qui s'occupe, qui gère toute la formation péruvienne. Ils se promènent à travers tout le Pérou et ils mettent en place des détections pour les enfants. Ils mettent en place des séances d'entraînement. Donc c'est fait depuis 10 ans. C'est toujours le même qui fait ça. Donc c'est la Fédération péruvienne qui a mis ça en place et automatiquement ça ressort. Ils ont aussi mis en place au niveau de la des équipes de ligue de première division péruvienne qui étaient tous endettés, ils ont fait appel au cabinet KPMG, hein, le grand cabinet d'audit, etc., qui a audité tous les clubs de D1 péruvienne, hein, qui leur a donné après tous les moyens pour être mieux au niveau de la gestion comptable. Donc ça veut dire que ils ont assaini le football péruvien, la Fédé, et en plus en dessous ils travaillent sur la formation des jeunes. Et je pense qu'à un moment donné, quand on travaille sur la masse, ça remonte automatiquement. Et le Pérou, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent au Pérou, et la preuve, hein, puisque c'est il faut une très bonne formation, les clubs sont sains au Pérou, et donc automatiquement on n'est pas trop étonné, voilà.
Ah ouais, merci pour cette leçon de football, même cette partie historique concernant la formation, hein, pérouvienne. On va revenir sur le Pérou, concernant aussi ces Chiliens du... Voilà, les Chiliens dans cette édition 2019 de cette Copa. On attendait aussi l'Argentine, la Bicéleste, mais Omar avait raison, que nous avons reçu dans ce plateau. Bon, on verra bien quoi ce que ça donnera sur cette finale. À de suite.
Time Foot Spécial Cannes. Reviens dans un instant. Time Foot Spécial Cannes. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on n'oublie pas, Beurre FM et avec son partenaire Ifri France vous fait remporter le maillot de la fameuse équipe d'Algérie, les Fenech, maillot sublime, il est vert en plus. Hein, bien sûr, il sera gagné au 01 53 48 3000, c'est bien ça, le 01 53 48 3000, il faut nous appeler, il y a beaucoup de monde qui nous appelle. Oui, c'est ça, Mehdi Hadjadj, ça sonne beaucoup,
Mehdi Hadjadj
est là avec nous, Mamadou Lamine Mané aussi.
Pas. C'est plus la peine d'appeler, Kamel a pris le maillot.
Et ouais, Kamel, il a carrément mis. Bam, Sissé est avec nous, Bruno Oyo aussi est de la partie, et sans oublier notre présidente Kamel Aïd Kaira. Justement, on parlait de cette Copa América, Bam, avec toi, la Copa América, cette demi-finale qui a opposé le Chili au Pérou, et le Pérou qui justement va en finale et qui l'emporte 3-0.
Ouais, c'est mérité. Au vu du match, honnêtement, ils n'ont pas volé, c'est pas un braquage comme on dit. Ils ont vraiment bien joué, ils ont un fond de jeu qui est développé. On sent, comme disait Kamel tout à l'heure, un travail de la fédération. Les mecs, ils bossent vraiment, les mecs, ils ont vraiment bossé. C'est pas, il y a un fond de jeu. Il y a une lisibilité quand on regarde le match, les phases de jeu, les schémas sont très lisibles, c'est pas du hasard.
Ouais, pour toi.
Ouais. J'ai bien regardé le match, honnêtement, j'étais agréablement surpris parce que c'est une équipe que je suivais pas forcément.
Il a resté éveillé, lui. Ouais, insomniaque, comme Kamel. Ouais. Mehdi, écoute, Sud-Américain, ça te connaît bien, ça.
Écoute, le Pérou, là, ils m'ont épaté. Je te dis la vérité, je m'attendais pas du tout à ça.
Derrière, on voit le Chili, mais complète 3-0 quand même. Et Guerrero qui marque à 35 ans. C'est un vieux de la vieille, il est là, il plante encore, il n'arrête pas.
Ah, ton collègue.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on sait très bien qu'ils vont finir en finale là, contre le Brésil, mais voilà, le Brésil magnifique. Ils vont finir en fanfare, ils vont faire la fête devant leur public. Ils vont renouer avec le peuple brésilien. Parce qu'ils attendent que ça, de gagner sur leur terre. Là. Et s'ils ne le font pas, c'est vraiment la catastrophe, là, je dirais.
Cata concernant... Ouais,
on a malédiction.
Le Chili déjà, mais sinon c'est que du bonheur. On le rappelle, Bruno Hoyo, que durant le Mondial 2018, le Pérou avait été désigné meilleur supporter. Quoi. Mmh. Ouais, c'est eux qui avaient été désignés
j'espère
comme...
qu'ils ne seront pas les meilleurs supporters de la finale et meilleurs
parents. Ouais, on espère, pourquoi non. pas. Ça changerait quand même.
Bah, en tout cas, j'espère que le Brésil va s'imposer. Je pense que voilà,
ça ferait du mal aussi,
ça
non
fait une longue disette. Je pense qu'ils n'ont plus rien gagné depuis la Copa América 2007, donc ça commence à faire beaucoup, à part une Coupe des Confédérations en 2009, mais bon voilà, c'est pas un trophée majeur.
Ça remonte à loin quoi.
Donc voilà, ça commence à faire beaucoup pour le Brésil. C'est l'occasion aussi pour Tite de marquer de son empreinte cette équipe du Brésil et ce beau maillot à 5 étoiles. Donc voilà, le Brésil est ultra favori, il faut que le Brésil s'impose, ils sont à domicile, quelle que soit la qualité du parcours du Pérou, le Brésil est favori.
Amadou, Brésil favori pour cette finale, édition 2019.
Favori, je pense que leur demi-finale contre l'Argentine, même si le match n'était pas exceptionnel, a quand même montré des belles qualités. Ils ont, c'était pas un gros match. Il y avait un peu d'intensité et je pense qu'ils sont en train de se mettre en ordre de bataille pour bien terminer la finale. Alors par contre, effectivement, le Pérou va arriver complètement décomplexé, ça c'est sûr. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Une belle équipe. Donc rien à perdre. Après, ce qu'il peut faire, c'est une finale. Mais je pense que si le Brésil entame bien son match, il peut pas y avoir. On parlait un peu de psychodrame ou psychologique parce que c'était le stade où effectivement ils avaient ça s'est bien passé. Ils ont passé ce cap-là et je crois que ils ont tout intérêt à continuer sur cette voie-là parce que je les vois. En fait, j'ai du mal à les. Je les imagine pas perdre. C'est ça le souci. Et donc je pense que normalement, ils devraient s'imposer.
Mais attention, on n'interrompt pas le Pérou, hein, parce qu'ils ont quand même sorti l'Uruguay, ils ont sorti le Chili. Le Chili, pourquoi ils ont perdu 3-0? Je pensais que le Chili pensait qu'ils étaient déjà en finale avant de jouer. Hein. Et moi, je pense qu'au niveau du Brésil, attention, hein, parce que le Pérou, ça va très très vite devant. Ça joue très vite en contre. Je ne sais pas si Marquinhos sera rétabli parce qu'il est sorti sur blessure. Sera rétabli. Sinon, si la charnière centrale, c'est Thiago Silva, Miranda, ça va très, 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 très doucement, même si ce n'est pas français ce que je dis, mais ça ne va pas vite. Alors que le Pérou, en contre, ils vont très, très vite. Quand on regarde les buts qu'ils ont marqués contre le Chili, c'est des contres et ça va à 100 à l'heure. Donc, c'est vrai que le Brésil est ultra favori. Ils leur ont mis 5-0 pendant les phases de poule.
Oui.
Ce qui peut être aussi attention, hein, ça peut être aussi compliqué pour le Brésil parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils y aillent comme le Chili, un peu la fleur au fusil. Mais moi, je pense que ça va être un beau match. Après, le Brésil doit gagner. Mais après, est-ce que les Brésiliens vont supporter la pression? La Coupe du Monde, ce qu'ils ont vécu. Comme tu l'as dit, Mam, les Péruviens, ils vont y aller l'esprit tranquille parce qu'ils ont fait leur Copa América. Même s'ils perdent en finale, ils ont fait leur Copa América. Hein. Ils ont sorti quand même.
Ah, ils sont déjà allés en finale. Hein.
Finale, mais cette Copa América, personne ne les attendait. On attendait tous le Chili et le Brésil. Donc je pense, est-ce que moi, le bémol que je mettrais, c'est est-ce que le Brésil va supporter la pression? Et je tenais à dire par rapport au match du Brésil. Un super coup de chapeau à Daniel Alves.
Ouais. Il a fait un match. On en a parlé hier, quand même.
C'est pour ça que je
ne
vais pas le dire, mais si je vais en finir là-dessus.
Ouais. On va avoir un auditeur, justement.
D'accord.
Il
y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien au football.
Bien sûr. Ouais.
Qui ne connaissent rien au football. Quand je pense que Daniel Alves a pris
hier.
Pendant la saison. Ouais. Et qu'il est quasiment considéré comme quelqu'un de. C'est pas du fait qu'il joue au PSG, mais
non,
le joueur.
Mais il faut le dire, Mamadou.
On n'a pas reconnu sa qualité et je pense qu'on a même un peu dénigré. C'est le meilleur joueur à son poste actuellement, même à la rigueur, à part des cafous, des choses comme ça. Bref, j'étais pas là hier, mais je suis content que tu me laisses dire ça.
C'est
remettre Daniel Alves à sa place, parce que c'est vraiment un joueur comme ça, prier pour le voir jouer pendant très longtemps encore.
On a le droit de dire tout ce que l'on veut sur l'antenne de Beurre FM, mais tu le fais comme d'habitude, comme toi, Kamel, hein, parce que je sais pas qu'est-ce qui t'arrive quand tu me dis oui, je peux, et bien sûr que tu peux, justement, tout comme. Notre auditeur très poli et toujours à l'écoute de Beurre FM, Ahmed, qui nous appelle du 18e. Comment allez-vous, Ahmed? Le 0153 48 3000, et on vous écoute.
Très bien, Bilal, j'espère que vos amis vont très bien.
On va très bien, Ahmed. Surtout quand on est avec vous.
Bilal, s'il vous plaît, vous savez, vous enchaînez les sujets, on a du mal à parler sur d'autres sujets.
Ouais.
J'aurais voulu m'exprimer.
Alors.
Un de vos invités, sur l'équipe de France, il a dit une chose ouais. véridique. Même si certaines personnes présentement avec vous n'étaient pas d'accord avec lui, il avait raison. Si l'équipe de France féminine de football avait gagné la Coupe du Monde,
ouais.
ils nous auraient fait tout le cinéma, tout le tra-train, tout le tralala et tout le Bataclan.
Ouais.
Ils n'auraient même pas investi. Ils se seraient dit, comme il a dit, votre invité, les petits fours, tout le cinéma.
Ouais.
Voilà, on n'a plus rien à faire, c'est bon, c'est classé.
Alors c'est Kamel, hein, notre consultant, voilà, qui l'a dit. Ouais, c'est Kamel. Il est sur le plateau, là. Ouais.
Par contre, là présentement, on parle... moi, j'ai vu un Pérou.
La compa.
Magnifique.
Magnifique, Ahmed.
La particularité, Bilal, de cette équipe au monde... C'est la seule équipe qui n'a jamais changé de maillot.
Ouais, c'est vrai.
Et rouge. C'est la seule équipe.
Blanc et roja.
Je vais vous dire franchement, je souhaite que le Pérou gagne contre le Brésil 2-1 ou 2-0. Moi, les Brésiliens, ça fait très longtemps, ils m'épatent plus. C'est
ouais.
du cinéma. C'est le cinéma à l'image du saucisson au PSG. Il n'y a plus rien.
C'est
fini. Depuis quand les Brésiliens n'ont pas gagné une Coupe du Monde? Depuis quand les
Brésiliens ont gagné
une Coupe d'Amérique du Sud? Depuis très longtemps.
Ouais.
On voit le Pérou, on voit une grosse équipe. C'est franchement, pour moi, je ne suis pas un spécialiste du football, je pense que c'est l'une des 5 meilleures équipes au monde.
Réaction avec Bruno Ayo.
Je termine.
Allez-y.
Voilà, moi j'ai entendu, vous savez, après la qualification de l'équipe algérienne en Coupe d'Afrique, en 8e des finales, on a eu tout le cinéma, et voilà une superbe équipe. Mes amis, la Tanzanie, le Kenya, 1-0 d'accord face au Sénégal. Moi je demande à voir, c'est
ouais.
maintenant, face à la Guinée,
on va voir.
Que cette équipe, on va voir si réellement elle a une ossature. C'est réellement le travail qui a été prôné par l'entraîneur.
Jamal Belmadi.
Qui est un grand entraîneur, un homme très très calme, qui a reçu souder cette équipe. Et il l'a ramassé à l'appel, hein, après le, avec tout respect que je lui dois en tant que joueur, mais après l'incapable entraîneur Madjer, il a ramassé l'équipe à la cuillère. Il en a fait une équipe pour l'instant potable. Mais moi je vous dis, dans quelques jours, vendredi,
ouais.
à la Guinée.
C'est
si
dimanche.
Si la Guinée bat la Guinée, Je me dirai, c'est bon, le boulot il est fait. Moi je pense pas que la Guinée va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Le travail il est encore long.
Aïe.
2022, monsieur. Non, faut
2022, bien sûr, mais il n'y a pas de problème.
Messieurs.
Bien sûr, Ahmed.
Voilà, soyez pragmatique.
Ouais, il le faut.
En 2022, le travail il sera fait. Là, je serai heureux. Mais moi, les louanges, les salam alek, les messes, tout le barat. Faut calmer. La Tanzanie, le Kenya, c'est bon.
Ouais.
Vous ramenez une équipe de D2 ou de CFA, les meilleures équipes de CFA, c'est le même niveau. Hein. Donc il faut attendre.
Mais ah ben on attend. Voilà. On attend dimanche soir. Ouais.
Algérie-Guinée.
Pronostic.
Je pense que Belmadi va s'en sortir avec un petit.
Allez, l'Algérie passera.
3-1.
Allez, l'Algérie 3-1. Passera selon Ahmed qui nous appelle et qui a fait le 0153483000. Eh oui, le maillot, justement. Et là.
Il ne mérite pas,
le maillot. Ah, et c'est Mehdi.
Il ne mérite pas. T'as été trop dur avec l'Algérie.
Il était trop dur. Il a été sympa.
Il mérite pas.
Il mérite le maillot. Il mérite le maillot.
Alors, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on dit?
Alors. Allez, la première auditrice qui appelle, on lui donne, c'est ça?
Merci, oui.
Ah,
toujours aussi galant, Ahmed. Je me souviens que tu avais appelé pendant la journée.
Pourquoi pas.
Pour la journée des droits de la femme. Et tu avais sorti un très, très bel hommage. C'est tout à ton honneur, Ahmed.
Et il le fait très très bien. Mais il est toujours à l'écoute, t'inquiète pas, il le fait très très bien.
Avec nous,
Ahmed, justement, avec la Copa América, on parlait, Mamadou, de cette fameuse finale qui opposera donc le Pérou, les Blanquirroja face à la Seleção de Dani Alves. Un petit mot. Non, ça va.
Ça va être une belle finale.
Ouais.
Je pense que ça va être une belle finale. Les deux équipes ont montré qu'elles étaient joueuses, en tout cas. Même le Brésil a joué. Tite fait jouer ses équipes. Les Blanquirroja ont joué aussi. Et ils méritent tout entièrement. Alors, ce serait dommage de les voir arriver dans ces phases de poule et jusqu'à arriver jusqu'au bout et de ne pas jouer, de faire un no-match, comme ça peut arriver sur une finale. Mais si les deux équipes restent dans le tempo dans lequel elles sont depuis le début, je pense qu'on devrait avoir un beau match.
On verra bien. En tout cas, on regardera de près tout ce qui se passera du côté du Brésil à l'approche de cette fameuse finale de la Copa América version 2019. Et nous, on va s'attarder maintenant au fabuleux continent qui est le continent africain avec sa CAN en Égypte.
Le meilleur
Égypte.
De tous.
Eh oui.
Time Foot. Spécial CAN. La victoire.
Mais oui, il est bon ce Bruno Aoyo. Après une Coupe d'Afrique au Gabon où seuls 4 des 16 sélections avaient à leur tête un coach local, la CAN 2019 marque un renouveau. Bruno Kamel, en effet, 11 sélectionneurs africains seront sur le banc en Égypte. Ce mouvement de fond vous semble-t-il durable, messieurs? Bruno?
Bah franchement, c'est un peu difficile à quantifier après.
Ouais.
Le Mali par exemple, voilà, avec Maga Souba fait du bon boulot. Camara a plutôt bien repris la barre après la période Wilmot du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que voilà, on a des bons coachs en Afrique. Après, bon, il faut que ça continue en fait. Il faut pas que qu'après ça reparte sur d'autres cycles. Mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie en tout cas, c'est que les entraîneurs européens qui viennent apportent quelque chose. Sébastien Minier avec le Kenya, c'était une équipe sympa à suivre, même si techniquement c'était pas la plus propre. Ce que De Sabre et Dupuis font respectivement avec l'Ouganda et le Madagascar, c'est remarquable parce que ça permet à ces pays de rêver. Ils s'impliquent vraiment, ils font pas ça à la légère. Et Madagascar, par exemple, a une vraie identité de jeu. Et l'Ouganda, par exemple, pour les avoir suivis de très près en 2017, c'est plus du tout la meilleure équipe, c'est une bien meilleure équipe de football. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait en tout cas de ce que je vois tactiquement dans cette CAN. Ibrahim Camara, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire par exemple, il est très décrié, mais voilà, il a qualifié son équipe deuxième du groupe. C'est pas évident de devancer les équipes d'Hervé Renard dans sur une confrontation directe. Donc moi je suis assez satisfait. Par exemple au Bénin, nous on a Michel Dussuyer, voilà, qui est un entraîneur français, mais c'est un entraîneur qui a jamais triché et qui voilà nous permet de passer le premier tour. Donc voilà, moi j'ai pas de critique spécialement sur les entraîneurs étrangers lors de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Non, ceci n'illustre-t-il pas de la meilleure des manières qu'un entraîneur africain a toutes les compétences et l'expertise requises Bams pour prendre les rênes d'une équipe de haut niveau?
Alors moi je milite pour ça en réalité, que localement on puisse trouver nos propres entraîneurs, les former. On le voit avec Belmadi, on voit la paire au Mali, Maga Souba, Fousseni Diawara, qui connaissent la sélection par cœur. J'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est des gens qui connaissent la mentalité, qui connaissent les joueurs, même si on a effectivement dans ces sélections-là beaucoup de binationaux. Mais pour moi, la tête d'une équipe nationale, c'est symbolique quand même.
Ouais.
Donc surtout qu'on a les compétences de nos jours.
Pour, c'est respectueux aussi.
Voilà, et c'est respectueux comme tu le dis. Pour moi, il faut qu'on continue, que nos fédérations continuent dans ce sens-là. Si on a le top 10 des entraîneurs internationaux qui viennent, d'accord. Mais si c'est pour un mec du même niveau, voire inférieur, excusez-moi, prenez celui du pays, quoi. C'est ça, et juste un petit clin d'œil, justement.
Alors, le clin d'œil, vas-y.
Juste pour la fédération malienne,
ouais.
Quelques problèmes.
Ouais.
Maintenant, temps à aller vers une sortie de crise. On avait le CONOR qui était en place, comité de normalisation, qui maintenant commence à normaliser les choses. Il y a l'élection, normalement, devrait avoir lieu l'élection du président de la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, le 31 août. Donc, on appelle à la candidature et on espère que tout ira.
On espère en tout cas, nous aussi. Merci. La pause et on revient après cela.
Time Foot, spécial CAN. Reviens dans un instant. Time Foot, spécial CAN, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations 2019. On le rappelle, notre partenaire Beurre FM, Ifri France, vous offre le maillot tant attendu des Fennec, couleur vert, magnifique maillot que vous pouvez remporter au 01 53 48 3000. Je le rappelle, le 01 53 48 3000. Vous pouvez nous appeler, il est à gagner. La première personne qui nous appelle, en plus on voulait une dame, hein, pourquoi pas, pour faire plaisir à son mari, à son fils ou même à son enfant. Voilà, il est à gagner, il est là, Kamel, tu le laisses, hein, tu le prends pas.
Hein. Non, je le prends pas.
Hein, voilà.
Moi je fasse ma voix de femme.
Non, Kamel, tranquillement. Hein, alors, il y a beaucoup de personnes qui appellent, Hugo est débordé, vraiment, notre réalisateur, il y a trop de monde, il est sous l'eau quoi. Et nous on parlait justement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec le Maroc.
Time Foot. Spécial CAN. Le duel, le duel. Le
vous restez à l'écoute de Beur FM, même si vous composez le 0153483000, on va essayer de faire passer l'heureux gagnant de ce maillot des Fennec. Vous inquiétez pas, mais la place au Maroc-Bénin de ce vendredi 5 juillet, jour de fête nationale aussi pour l'Algérie, on le rappelle. 18h, donc le Maroc rencontrera les Béninois de Bruno Ayo, favoris sur le papier, les hommes d'Hervé Renard, le sélectionneur, disputeront, doivent-ils justement pour autant disputer leur prochain match en totale confiance. Pour toi Bruno?
Bah oui, le Maroc est largement favori au niveau du jeu, ils ont montré beaucoup plus de choses que le Bénin par exemple. Voilà, moi je suis un supporter effréné du Bénin, ça c'est sûr, mais honnêtement au niveau du jeu, de l'animation offensive et même de la capacité des attaquants à conclure, le Maroc est meilleur. Après, Dussuyer, c'est un entraîneur qui bosse très sérieusement tactiquement, qui va proposer, qui va essayer de bétonner, voilà, de proposer un bloc compact avec des lignes resserrées. Mais pour moi, voilà, avec tous les joueurs qu'il y a dans cette équipe du Maroc, Ziyech, Amrabat, Ennesiri, même défensivement, Hakimi, Benassia, Mazraoui, etc. C'est des joueurs de très haut niveau. Donc, pour moi, le Maroc est largement favori. Mais après, ce Maroc ne marque pas tant si facilement que ça.
Ouais.
Je pense qu'on risque d'avoir un match fermé si le Bénin est compact. Si après, on a des erreurs de concentration comme le but encaissé contre le Ghana sur une erreur du défenseur central Olivier Verdon qui vient de signer au Betis Séville. Ce genre d'erreur, on passera pas, c'est sûr. C'est déjà un miracle. Honnêtement, pour le Bénin, c'est déjà notre.
T'en arrivé là, quoi. Huitième de finale, c'est
oui,
ça,
c'est,
ou non?
C'est notre troisième participation à la CAN. On a toujours pas gagné un match. On se retrouve en huitième par la magie de
trois seulement et tu chambres la carré
voilà.
De 90.
Voilà, voilà. Mais je suis aussi Nigérian. C'est aussi pour ça que je me permets. Attends. Ouais, non, mais voilà.
Encore
mais non, mais juste avant de conclure.
Il y a Algérien aussi, non?
On appelle ça de l'opportunisme.
Juste pour terminer. Voilà, je pense que par cette magie de la CAN à 24, on passe, on se retrouve en huitième de finale. Mais voilà, le Maroc est largement favori. Je dirais la cote, elle est à, je sais pas, à 10 regarder. Contre 1000, un truc du genre.
Ouais. Ouais.
C'est contre qui?
Contre qui? Contre justement, Bénin. Contre le Bénin.
Mais moi,
eh oui,
le Maroc Bénin.
Kamel, justement, on va prendre Salima, qui est l'heureuse élue, qui nous appelle de Saint-Etienne et qui remporte le fameux maillot
vert,
de l'équipe d'Algérie. Bravo Salima. Qui le remporte. Bonsoir Salima.
Bravo Fatoumata, t'as déconné.
Comment allez-vous?
T'as déconné.
Ça va, alhamdoulilah.
Ça va bien?
Ouais, ça va.
Alhamdoulilah. Vous remportez le maillot. Il est magnifique. On vous l'enverra, le maillot des Fennec. Vraiment, ça va faire. Il sera pour vous? Ou pour
non,
votre mari?
Pour mon fils.
Ah, pour votre fils. Eh ben, il sera vraiment très, très content parce qu'il est très, très beau ce maillot des Fennec. Hein, comme ça, il pourra. On va essayer de vite vous l'envoyer. Comme ça, il pourra le mettre pour ce dimanche soir, hein, quand l'équipe d'Algérie, Inch'Allah, affrontera cette équipe de la Guinée à 21h. Un petit mot, oui Kamel, oui, avec Salima, qui nous appelle Saint-Etienne.
En plus, le maillot, il est vert, donc vous êtes de Saint-Etienne, ça ira très bien.
Ouais, parfait, c'est vrai.
Et je vous invite aussi à jouer au loto, parce qu'on a reçu 1 million d'appels.
C'est vrai.
Vous avez beaucoup de chance.
Ouais, c'est vrai, vraiment. C'est Salima qui a remporté ce maillot.
Merci,
Salima,
merci.
Salima, oui. Si vous voulez passer une dédicace à votre famille, aux gens qui vous reconnaîtront.
J'embrasse mes enfants, mon mari, et puis toute l'équipe de Beur FM, et merci beaucoup. Merci. Et Inch'Allah, l'Algérie, elle va gagner.
Ah ben voilà, Inch'Allah. Salima qui nous appelle, qui a fait le 0153483000. On va lui envoyer Nico Presto pour son fils, ce magnifique maillot des Verts. Vous, les autres auditrices et les auditeurs, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres maillots qui seront à gagner sur l'antenne de Beur FM. On vous le promet, notamment de toutes ces nations africaines, ça sur la Tunisie, le Sénégal, le Mali, le Bénin ou encore même le Maroc. C'est promis pour demain. On essaiera de vous faire remporter un autre maillot. C'est vraiment promis. Et pourquoi pas celui du Maroc. Oui, Bruno.
Oui, j'ai juste une dédicace. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami Fatoumata qui écoute religieusement cette émission tous les soirs. Et voilà, une fidèle auditrice. Et voilà, j'espère qu'elle gagnera le maillot du Sénégal, son équipe.
Ah ben pourquoi pas.
Elles sont nombreuses, les Fatoumata.
Ouais, elles sont nombreuses. Justement.
Toutes les Fatoumata.
Le Sénégal, l'Ouganda, justement. Ça fera plaisir à notre Mamadou Lamine Mané. Encore. Absolument. Une affaire de prime après le Cameroun, le Nigeria. Nigeria avant le début de la CAN. C'est au tour de l'Ouganda de s'offrir sa crise après un premier tour réussi. Deuxième du groupe A derrière l'Égypte, les crânes sortent de deux jours de grève pour réclamer encore une fois une revalorisation de leur prime pour la CAN 2019. Pas de bon augure avant de faire face aux Lions.
Bah écoute, c'est pas la meilleure manière de préparer le match contre déjà le favori du match qui est le Sénégal. Est-ce qu'ils auraient pu se passer de encore une fois? On avait parlé c'était le Cameroun, je crois, en début de compétition, ouais, qui démarre aussi avec une grève,
absolument,
une sorte de bras de fer, de mise à l'amende, et on s'était déjà posé la question de savoir est-ce que c'était pas aujourd'hui le seul moyen pour pouvoir discuter ou pouvoir au moins entamer des discussions avec les fédérations. Donc je pense que on est reparti encore sur le même la même chose, et ça tombe très très mal. Parce que préparer un match de cette intensité-là avec sans être forcément prêt dans la tête, l'Ouganda ne s'y prend pas de la meilleure des manières.
Alors quand même.
Mais moi je suis outré par la réaction des joueurs ougandais. Autant quand c'est les fédérations africaines, quand c'est les fédérations africaines comme le Cameroun, etc., qui ne respectent pas leur engagement, on le pointe du doigt. Mais là, la fédération ougandaise n'a rien à voir dans l'histoire. C'est une revalorisation. Ça veut dire que au départ, les primes, elles ont été mises en place par la fédération ougandaise. Ça a été acté par les joueurs. Et là, chemin faisant, l'appétit vient en mangeant. Les joueurs ougandais décident, parce qu'ils sont en quart de finale, en huitième de finale, décident qu'on leur augmente leurs primes. Ça s'est jamais vu. C'est impossible. Donc là, moi, c'est vraiment, les joueurs ne respectent pas leur maillot, ne respectent pas la compétition. Parce qu'à ce moment-là, s'ils gagnent encore, ils arrivent en demi-finale, ils vont négocier. Les primes se négocient avant. Et la fédération a bien dit, ouais, que tout avait été discuté depuis le 13 mai dernier, y compris les bonus en cas de victoire et de qualification. Donc, l'Ouganda, c'est du chantage et c'est pas bien par rapport à la Fédé. Et la Fédé n'a rien à voir là-dedans.
Bam, ça. On termine avec toi.
Ouais, merci Kamel pour cette information, parce que souvent, on a tendance à croire que ce sont les fédérations qui ne respectent pas leur engagement. Là, c'est encore un autre visage de l'Afrique négative qu'on montre. C'est dommage parce que chaque CAN, on a ces histoires de primes qui reviennent ou des histoires de billets d'avion non remboursés ou je ne sais quoi. Nous sommes au 21e siècle, j'ai envie de dire, les gars, attendez, respectons les pays. Le football, c'est d'abord avant tout un jeu, mais qui va parfois au-delà du jeu parce qu'on porte quand même toute une nation derrière. Donc, pour des histoires de 3 francs 6 sous, même si aujourd'hui, effectivement, les sommes sont astronomiques dans le monde du football, mais j'ai envie de leur dire, je veux d'abord amener la CAN en Ouganda, ça mettra du baume au cœur à beaucoup pays, en tout cas. Et je reviens encore sur le Mali, le championnat va reprendre aussi, cette fois-ci avec 23 équipes, et
pas mal.
On espère début septembre.
Enthousiaste. Super. Et aussi le dynamisme au sein de ce championnat malien. Ouais. Hein, et on aura des infos vis-à-vis de toi.
Et big up à Yacine Brahimi qui nous a soutenus
c'est sympa,
pour le Forum des diasporas africaines, parce qu'on avait fait un panel
dernièrement et c'est passé.
Le jour de. Malgré le jour du lancement de la CAN, il est intervenu quand même en direct sur le panel sport, outils d'intégration économique et sociale. Et on tenait à le remercier parce que vu la pression et l'engouement qu'il y a autour de l'équipe d'Algérie, prendre le temps pour échanger avec la diaspora. Merci Yacine et bon courage pour la CAN, même si le Mali.
Merci de le rappeler, Ben, si c'est justement la dernière partie de cette émission TimeFoot spéciale Coupe d'Afrique des Nations.
TimeFoot. Spécial CAN, le mode pressing.
La transition est parfaite. Bam, il a le rythme dans la peau. Hein. C'est bien. Lui aussi, de l'engouement. On en a de l'engouement du côté du WAC. Hein. Le club, le plus ancien club de France, le doyen, c'est ça, Mamad. Hein. C'est bien ça. Le Havre rêve de Samir Nasri. Mais oui, t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié, Kamel. Paul Le Guen, le nouveau manager normand, espère convaincre l'ancien Gunner ou même Marseillais de le rejoindre pour une aventure en Ligue 2. Le HAC est-il en train de tenter un coup à la Ben Arfa, remis en scène et en marche par le Stade Rennais? Mehdi, Samir Nasri, pas mal, génération 87.
Ça serait bon pour la Ligue 2, mais bon, est-ce que ça va
faire? On aime beaucoup cette génération.
Histoire, hein. Déjà, Paul Le Guen, c'est un beau coup. Après, le reste, on verra. Non, mais Nasri, je l'imagine très peu au Havre.
Ah,
surtout en Ligue 2.
Ligue 2, les gars. Ligue 2.
Il a envie de se faire une petite santé vite fait, mais bon.
On se refait pas une santé au Havre devant 300 spectateurs. Il y a 300 spectateurs.
Oh, quand même.
Il a 32 ans.
Il est sévère.
Vous allez avoir des soucis avec les pensionnaires du stade des Chazots.
Des Chazots.
Ils ont attendu en France.
C'est magnifique, le Havre.
Non, c'est le stade Océane.
Samir Nasri, même maintenant, est un joueur qui peut jouer largement en Ligue 1. largement, il n'y a pas de problème. Une équipe milieu de tableau Ligue 1, ou au pire des cas, s'il veut finir sa carrière, qu'il la termine comme tous les joueurs, au Qatar, etc.
Il y a du talent, Nasri.
Mais aller au Havre, sincèrement, non.
C'est une farce. C'est quand même, il y a du talent chez Nasri.
Je crois que c'est le 1er avril.
C'est du talent chez Samir Nasri, il faut le rappeler.
Non, je pense qu'ils vont essayer de l'attirer, mais c'est pas le bon championnat pour Samir Nasri. Déjà, moi, je pense qu'il va plutôt privilégier l'étranger. Et puis, la Ligue 2, c'est un championnat difficile pour les artistes qui veulent plus trop courir, etc. C'est pas le championnat idéal. Donc, moi, déjà, je vous conseillerais pas d'y aller. Je pense qu'il ira pas.
Merci Bruno Oyo de m'avoir accompagné.
Si
avec
Yaoui, j'aurais accepté.
Pourquoi pas. Kamel Aïd Kera aussi. Merci. Mamadou Lamine Mané, sans oublier notre réalisateur Hugo, mais aussi la réalisation vidéo en la personne de Nabil, Mehdi Hadjadj et Bam Cissé, sans oublier notre journaliste Abdoulaye. À demain 18h.
Beurre FM, 18h-19h, Time Food Special Game avec Bilal Nedman sur Beurre FM, numéro 1 sur le foot africain.